Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Je ne vous parlerai pas aujourd'hui d'Alep, comme je l'avais annoncé, mais de Katna. J'avais pensé que le dossier d'Alep étant plus complet, il valait mieux commencer par ce royaume, mais il est préférable de suivre une logique à la fois géographique et chronologique. Comme nous avons traité la semaine dernière de Hatzor et de Byblos, en remontant vers le nord, on rencontre d'abord Katna. En outre, il se trouve que Katna est mieux connue à l'époque de Yasmaradu, tandis qu'Alep est plutôt documentée plus tard, sous le règne de Zimrilim et au-delà. Pour ces deux raisons, il m'a finalement semblé plus logique de commencer par Katna, et ce changement a été indiqué sur le site web du Collège de France depuis mercredi dernier, donc si vous avez regardé, vous n'êtes pas surpris. Du point de vue géographique, la situation de Katna est exceptionnelle, car la ville est située à la croisée des chemins. Nord-sud, en étant placée dans la vallée de l'Oronte qui mène vers le nord, mais qui se prolonge vers le sud par la grande ligne de faille qui sépare le Liban et l'anti-Liban et au-delà, et puis est-ouest, grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui la trouée de Homs, qui permet de passer de la Syrie intérieure à la côte méditerranéenne en rejoignant la vallée du Nahr el-Kalb. Le site de Katna se trouve dans une grande plaine fertile entre la steppe aride de Palmyre, dans l'Antiquité comme en arabe de nos jours Tadmor ou Tadmer, et puis la vallée de l'Oronte. Le site de Mishrifé se trouve à 18 km au nord-est de la ville moderne de Homs, à proximité d'un tributaire de l'Oronte. Il occupe une surface de près de 100 hectares à l'intérieur d'une enceinte de forme presque carrée. C'est en 1924 qu'un officier de l'armée française, le comte Duménil du Buisson, débuta des fouilles sur le site de Mishrifé que l'épigraphiste de la mission, Charles Virolo, put rapidement identifier à l'ancienne Katna. La fouille a duré de 1924 à 1929 et a surtout porté sur la zone du palais. Des tablettes cunéiformes ont été découvertes lors de la deuxième campagne en 1927 et Virolo en rendit compte dès 1928, publiant un article plus complet deux ans plus tard. Il s'agissait d'inventaires de temples de la déesse Belet Ekalim, la dame du palais. Et c'est finalement Jean Bottero qui a assuré leur édition après la Deuxième Guerre mondiale. Ces tablettes de Katna ont eu un double intérêt. D'une part, montrer que dès l'époque paléo-babylonienne, le cunéiforme était écrit dans cette région située bien à l'ouest de l'Euphrate, une des tablettes avec clairement une graphie paléo-babylonienne alors que les autres étaient un peu plus tardives, datant de la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et puis, ces documents montraient par ailleurs qu'il n'y eut pas dans cette région de coupure au milieu du deuxième millénaire, ce que les recherches plus récentes ont confirmé. Le problème posé par la fouille du site était qu'un village s'était établi dans les ruines. Au milieu des années 1920, il comptait déjà 400 habitants et au début des années 1990, la Direction générale des Antiquités de Syrie a décidé de déplacer les villageois et j'ai pu visiter le site après le départ de ses habitants et avant la reprise des fouilles, comme en témoignent ces deux photographies. Les recherches archéologiques ont d'abord été menées par une équipe syrienne dirigée par Michel Al-Magdassi de 1994 à 1998, mais il est apparu rapidement qu'il fallait davantage de moyens humains et financiers, et donc c'est une équipe plurinationale qui a été créée en 1999, qui regroupait la Direction générale des Antiquités de Damas avec Michel Al-Magdassi, l'Université de Tübingen avec Peter Pfelsner, épaulé par Mirko Novak, et l'Université de Udine avec Daniele Morandi-Bonacossi, secondé par Marta Luciani. Les épigraphistes étaient Thomas Richter côté allemand et Jesper Heidem côté italien. Le site a été divisé en plusieurs secteurs que chacune des trois équipes avait la responsabilité de fouiller, et les résultats ont été extrêmement riches, parfois même spectaculaires. Je vais donc commencer par présenter les découvertes effectuées dans le palais, en posant la question de savoir s'il a été occupé par les deux rois de Katna, connus par les archives royales de Marie, à savoir Ishriyadou et son fils Amoudpiel. Puis nous verrons comment une alliance matrimoniale unit les royaumes de Katna et de Marie. Et enfin, nous analyserons, à partir de textes inédits, la campagne qui a été menée dans la région du Liban et de l'Anti-Liban par des troupes venues de Marie. Les découvertes archéologiques ont avant tout porté sur le grand palais situé au sommet du Tell. La question est de savoir s'il a été occupé par Ishriyadou. Celui-ci est le premier roi de Katna connu, et son nom, Amorite, signifie « le dieu Adou est mon aide ». Nous verrons que des scellements ont été découverts dans le palais qui portent des empreintes d'un sceau que les fouilleurs ont considéré comme étant celui d'Ishriyadou. Et nous terminerons cette partie par la question controversée de la datation du palais. Le comte Duménil du Buisson avait fouillé sous ce qu'il appela la butte de l'église, où il découvrit un grand palais couvrant presque un hectare. Pour mémoire, le palais de Marie, c'est 2,5 hectares. Les archives du comte Duménil du Buisson ont été déposées au Louvre en 1992 et ont fait l'objet d'une étude parue en 2000, et la reprise de la fouille de ce monument a été bien entendu un des objectifs de la nouvelle équipe qui a occupé aussi bien la composante allemande que la composante italienne. Les résultats ont été très riches, la découverte la plus fameuse étant celle d'un hypogée situé sous le palais, qui a été découvert par l'équipe allemande en 2002, et c'est certainement une des découvertes les plus extraordinaires de ces dernières décennies dans l'archéologie proche-orientale. Vous voyez ici l'entrée de l'hypogée, qui est encore plus spectaculaire que l'entrée de la tombe de Toutankhamon. Et puis, voici quelques vues de ce que les fouilleurs ont découvert à l'intérieur, et quelques-uns des plus beaux objets qui ont ainsi pu être exhumés. C'était moins riche que Toutankhamon, pour être honnête, mais malgré tout, tout à fait spectaculaire. Et cela a donné lieu, bien entendu, à des colloques, à des expositions, dont celle de Stuttgart en 2009, et aussi à de très nombreuses publications, et il faut saluer ici le sérieux des fouilleurs qui n'ont pas tardé à mettre à la disposition de tous ce qu'ils avaient découvert, d'abord dans un volume regroupant le travail des trois équipes, et ensuite dans deux séries séparées, une italienne et une allemande, et c'est cette dernière qui est la plus fournie, avec la série Katna Studien et ses suppléments. C'est sûrement l'opération donc la plus spectaculaire qui ait eu lieu en Syrie avant que le pays se ferme à la recherche archéologique à partir de 2011. Pour l'essentiel, les textes qui ont été découverts sont postérieurs à la période qui nous intéresse. Dans le palais, les archives du roi Idanda datent du XIVe siècle, plus précisément de la période qui précède immédiatement l'arrivée des Hittites. Elles comptent environ 70 tablettes, en majorité des documents administratifs, mais aussi 5 lettres. La cinquantaine de textes découverts par la mission syro-italienne date également pour l'essentiel de l'âge du bronze récent. Et on a également un certain nombre de scellements, dont certains remontent à l'époque paléo-babylonienne. Mais en richesse, en dépit de la richesse de la fouille, le site de Katna n'a pour l'instant pratiquement pas donné de textes contemporains des règnes de Yasmaradou et de Zimrili, mais c'est donc de Marie que proviennent la quasi-totalité des textes que nous allons utiliser pour l'enquête d'aujourd'hui. L'année dernière, ceux d'entre vous qui étaient là se rappellent peut-être que nous avons débuté le portrait de Zimrilim en commentant la légende de son sceau-cylindre. Eh bien, nous devrions pouvoir faire de même avec Ishriadou, puisque Daniele Morandi Bogonacossi et Jesper Heidem ont publié en 2006 ce qu'ils ont présenté comme des empreintes du sceau du roi Ishriadou. En 2005, dans ce qui s'appelle l'opération H de la mission Syro-italienne sur l'Acropole, un lot de 74 scellements a été découvert dans le remplissage d'une tranchée de fondation du palais royal. Il s'agit donc de matériel trouvé lors du creusement de cette tranchée par les anciens et réutilisé pour la combler. Il semble qu'on a affaire, dans tous les cas, à des scellements de portes. Et 9 fragments portaient l'empreinte d'un sceau mentionnant donc le nom du premier roi de Katna connu, Ishriadou, sans qu'il ait été possible de les raccorder de façon à voir si, à l'origine, on avait affaire à 9 scellements différents ou à un nombre plus restreint. Et on s'est alors rendu compte que des fragments de scellements qui avaient été découverts dès 2001 par la mission allemande comportaient en fait des empreintes du même sceau, mais sa légende n'avait pas pu être reconstituée de façon satisfaisante par Thomas Richter en raison de l'état très incomplet des fragments qui avaient alors été découverts. Avec les fouilles italiennes de 2005, il en allait autrement. Et donc, vu l'importance de cette découverte, je vais rentrer dans des détails un petit peu plus techniques, mais vous comprendrez vite l'importance qu'a cette discussion. Le sceau reconstitué à partir de ces empreintes donc, a été publié en 2006 et il se caractérise d'abord, ça se voit immédiatement, par une iconographie atypique avec 5 rangées de guilloches. Et la légende pose quelques problèmes de lecture. D'une manière assez peu claire, il faut bien avouer, Thomas Richter aussi bien que Jesper Heidem ont parlé d'une légende en négatif et du coup ils ont proposé de lire les lignes en commençant par le bas, mais les photos qu'ils ont publiées montrent une légende qui est gravée normalement. Donc je me demande si les photos qui ont été publiées n'ont pas inversé. Alors, ça supposerait à ce moment-là que l'échelle a été coupée et remise sur la photo. Il y a là quelque chose qui n'est pas clair dans la publication. J'ai lu et relu ce qu'ont écrit nos collègues, et si je comprends bien, ils considèrent en fait que le lapicide a commis une double erreur en gravant la matrice de ce sceau. Le lapicide aurait cru qu'il fallait inverser l'ordre des lignes pour que l'inscription soit correcte sur l'empreinte, ce qui est faux, mais il aurait gravé les signes en positif, alors que sur une matrice, évidemment, il faut graver en négatif. La lecture proposée par Jesper Heidem a été la suivante. Ishri Adou, Char Matatim, donc roi des pays, et puis ensuite Adou, Il Shumshu, ce qu'il traduit par « le dieu Adou est le dieu de son nom ». Alors, il a lui-même indiqué que le lapicide aurait commis une erreur grammaticale parce qu'on attendrait « Shumishu » et non pas « Shumshu ». Après, l'état construit « il », le dieu de, et par ailleurs, on connaît le concept de dieu de sa tête pour décrire la divinité personnelle de quelqu'un, mais la notion de dieu de son nom, pour autant que je sache, est un apax. Et donc, Jean-Marie Durand a pensé qu'il fallait proposer une autre interprétation, et il l'a fait dans une note de Naboo, immédiatement après la publication, en suivant l'ordre apparent des lignes. Et donc, il traduit Adou, pur est son nom, roi des pays, Ishriadou, sous-entendu, est son serviteur. Donc, on aurait d'abord une invocation au dieu de l'orage, suivie par une épithète, et ensuite le nom du roi. Et Jean-Marie Durand en a conclu que la divinité principale du royaume de Katna, qu'on ignorait jusqu'alors, eh bien, c'était le dieu Adou. Mais il faut bien avouer que la légende ainsi lue est encore plus étrange. D'abord, cette espèce de incise, Il Shumshu, est curieuse. Et par ailleurs, on ne connaît pas de sceau où un roi se déclare ainsi implicitement serviteur d'un dieu dont le nom figure en tête de l'inscription suivie par une épithète. Dans des cas de ce genre, on a intérêt à chercher les solutions les plus simples possibles. Et c'est ce qu'a fait Jack Sasson dans une troisième tentative de lecture et d'interprétation du texte, en proposant qu'il s'agisse du sceau d'un serviteur d'Ishriadou. Et son argumentation partait de ce constat qu'on n'attend pas l'empreinte du sceau royal sur une simple porte. Pour lui, on aurait une légende classique, le nom du roi, suivi par une épithète, et ensuite le nom du propriétaire du sceau en troisième ligne. Et Jack Sasson, suivant la lecture matérielle de Jesper Haidem, proposait de comprendre que la ligne 3, eh bien, c'était le nom de l'individu. Donc là, ici, j'ai oublié de mettre un tiret. Hein, et donc, c'est Addu Il. Donc l'ensemble, ça donne Ishriadou, roi des pays, Addu Il est son nom, c'est-à-dire le nom du serviteur. Alors, Jack Sasson était obligé d'admettre que la graphie d'Ingir Ishkur I-Il pour noter le nom Addu Ili était un apax. Le nom est connu, mais c'est écrit généralement d'Ingir Ishkur et puis ensuite avec l'idéogramme d'Ingir, ou bien écrit I3-Li2, Addu Ili. Donc, il y a un premier problème. Mais il y a un deuxième problème, c'est ces deux signes, Shumshu, derrière le nom du propriétaire du sceau. Shumshu, on le trouve, par exemple, dans les ventes d'esclaves, après le nom de l'esclave, souvent d'ailleurs sous la forme d'un idéogramme, Muni'im. Et puis, on le trouve aussi dans des lettres pour désigner un individu, par exemple, dans cette lettre dite Tourasdou, à présent, un homme nommé Itsinabu, Yamut Balea, etc. Et donc, vous avez Itsinabu, Shumshu. Mais il s'agit d'une lettre, il ne s'agit pas de la légende d'un sceau. Et puis surtout, à cet endroit-là, dans les sceaux des serviteurs de roi, on attend l'expression « Warasu », son serviteur, et pas du tout « Shumshu ». Alors, faute de copie satisfaisante, j'ai réexaminé attentivement les photos publiées après les avoir scannées en haute définition. Et il m'est apparu de façon très claire que l'avant-dernier signe ne pouvait pas être un choum. Dans l'écriture archaïsante des lapicides, le signe choum est beaucoup plus large, beaucoup plus long exactement, et il ressemble en fait à bi'ir. Ici, si on regarde bien, on a tout simplement un signe am. Alors, j'ai remonté et j'ai regardé le signe qui précède, qui ressemble pas du tout à un signe il, et quand on le regarde bien, ça ressemble à un signe ra. Et donc, on aurait une séquence ra-am. Et du coup, la ligne devient d'Ingirishkur i-ra-am-chou. Alors, il y a, me semble-t-il, deux façons d'interpréter cette séquence. On peut d'abord la comprendre comme signifiant Addu Iramchou, le dieu Addu l'aime. Et donc la légende serait en effet celle du roi Ishriadou, Ishriadou, roi des pays, le dieu Addu l'aime. Mais le problème est que cette troisième ligne, elle est sans parallèle. On connaît en effet de très nombreux sceaux royaux qui viennent cette fois d'Alep, qui sont tous construits de la même manière, avec le nom du roi, le nom de son père, le titre de roi du Yamhad, qui est le nom du royaume d'Alep, et ça se termine par Naram d'Ingirishkur, ou d'Ingirim, peu importe, c'est le même signe, donc avec l'adjectif « bien-aimé du dieu Addu », mais pas avec une forme verbale. Donc, c'est bien gênant. Alors, on peut, à ce moment-là, penser à une deuxième solution, puisque, comme je vous l'ai déjà indiqué, quand on a sur un sceau le nom d'un roi suivi par une épithète, la troisième ligne est celle du serviteur du roi, lequel est le propriétaire du sceau, et son nom est suivi très souvent par la mention Ir-3-Sou-2, Ouarassou, son serviteur, mais pas toujours. Et ici, je vous donne l'exemple du sceau de Sammétar. Vous avez Zimri-Lim, roi fort, Sammétar, fils de Laoum, et il n'y a pas écrit son serviteur. Et du coup, on pourrait comprendre Ishri-Addou, roi des pays, et puis on aurait simplement Addou-Iramchou, sous-entendu, et son serviteur, et Addou-Iramchou serait le nom du serviteur du roi. Le problème, parce qu'il y a aussi un problème avec cette solution, c'est que le nom Addou-Iramchou n'est pas encore attesté. Mais il s'inscrit très bien dans ce qu'on connaît de l'onomastique aulique, où les prénoms renvoient au souverain et pas au porteur du nom. Donc quelqu'un qui s'appelle Addou-Iramchou, ça veut dire le dieu Addou l'aime, aime le roi dont je suis le serviteur. Autrement dit, on a un dilemme. Dans les deux cas, on a une étrangeté parce que l'épithète Charmatatim, roi des pays, n'est pas encore attestée pour un roi à cette époque-là, mais ça, il faut bien qu'il y ait des nouveautés. Et à partir de là, donc, dans les deux cas, on a une bizarrerie supplémentaire. La phrase « Addou l'aim » dans la solution numéro 1, et puis l'existence d'un nouveau nom propre, « Addou Iramchou » dans le cas de la solution numéro 2. Alors, comment est-ce qu'on peut trancher ? Eh bien, je pense qu'on peut invoquer deux arguments. D'abord, l'iconographie. En 2016, Adélaïde Otto a consacré une étude à l'élément décoratif qu'est la guilloche. Et elle a commencé son article aux guilloches de ce sceau de Katna avec comme raisonnement, eh bien, si un sceau royal possède un tel motif, c'est que ce motif est quelque chose de central. À vrai dire, l'argument peut être retourné très facilement. On pourrait dire, au contraire, qu'il est très étrange, vu ce qu'on sait par ailleurs de l'iconographie des sceaux royaux de cette époque, qu'un sceau orné simplement de 5 rangées de guilloches ait pu être un sceau royal. Et deuxième argument, je serais, comme Jack Sasson, assez étonné que le sceau du roi ait pu être utilisé pour sceller une porte. On possède à Marie des dizaines d'empreintes du sceau de Zimri-Lim, mais aucune qui soit de façon assurée sur un scellement de porte. Donc, je dirais que l'iconographie, comme le support des empreintes de Katna, me conduisent à conclure qu'il s'agit plutôt du sceau d'un serviteur d'Ishri-Addou nommé Addou-Iramchou, et donc le sceau du roi Ishri-Addou reste à découvrir. Alors, un dernier mot sur ces fragments de scellement. Avec quelques autres éléments qui remontent au bronze moyen, ils ont été l'enjeu d'un débat sur la datation du palais royal de Katna. Il y a eu deux positions, celle des Allemands, considérant que le palais remontait bien au XVIIIe siècle et avait continué à être utilisé sans hiatus jusqu'à ce qu'il soit finalement brûlé au XIVe siècle. C'est la position qu'a notamment défendue Mirko Novak. Et puis, la position des Syriens et des Italiens a été différente. Michel Al-Magdassi a souligné qu'un bâtiment en briques crues, c'était difficile d'imaginer qu'il ait une durée de vie de plus de 5 siècles. Et de son côté, Daniele Morandi Bonacossi considère que le palais qui a été fouillé ne peut pas avoir été la résidence d'Ishri-Addou et de son fils Hamoud Piyel parce que tous les éléments contemporains des archives royales de Marie ont été retrouvés dans des contextes secondaires et sont donc des éléments anciens mis au rebut. Et les statues qui ont été découvertes à l'entrée de l'hypogée ressemble beaucoup à la tête qui a été découverte au niveau 7 d'Al-Alar, donc après la destruction du palais de Marie. Et donc, pour Morandi Bonacossi, le palais ne peut remonter qu'à l'extrême fin du bronze moyen et plutôt à la transition bronze moyen-bronze récent. Alors la question qui se pose dans ce cas, c'est de savoir où se trouvait le palais occupé par Ishriadou et son fils Hamout Piel, les contemporains des archives de Marie, certainement pas sous le palais royal, puisque les sondages ont montré qu'il était impossible qu'il y ait un palais en dessous. Les Italiens ont bien découvert un palais oriental sur le site, mais il est quand même trop petit pour être considéré comme le grand palais royal de cette époque-là. Ce sera donc, à la suite des fouilles, de résoudre cette énigme. En attendant, donc, on n'a retrouvé à Katna ni le sceau du roi Ishriadou, ni le palais où il a vécu. Alors, vous êtes peut-être un peu déçu par cette conclusion, mais rassurez-vous, on a quand même les moyens de dresser un portrait d'Ishriadou grâce au fait qu'il est devenu le beau-père du roi de Marie, Yasmaradou. Et de ce fait, on a retrouvé à Marie des éléments de sa correspondance. 6 lettres qu'il a adressées à Yasmaradou, une qu'il a adressée à Ishmedagan. Et puis, par ailleurs, on a 2 lettres de Yasmaradou à Ishriadou qui peuvent être soit des brouillons, soit des copies, soit éventuellement des lettres qui n'ont pas été envoyées. Et puis, par ailleurs, il est question assez souvent d'Ishriadou dans des lettres adressées à Yasmaradou par son père Samsiadou, mais aussi par ses généraux. Nous le verrons dans la troisième partie. Alors, on ignore encore de quelle manière et à partir de quelle date exactement ont commencé les relations politiques entre le royaume de Haute-Mésopotamie et celui de Katna, mais lorsque débute notre documentation sur ce sujet, on est dans la deuxième moitié de l'éponymie d'Ikoupiya, c'est-à-dire au printemps 1782, et on voit qu'à ce moment-là, Samsiadou et Ishriadou ont décidé de renforcer leur alliance par un mariage. Le roi de Katna a donné sa fille comme épouse à Yasmaradou, le fils de Samsiadou. Et là, on a un premier point à évoquer, c'est ce qui concerne le nom que portait cette princesse. Dans les sources, elle est presque toujours désignée comme Beltoum, un mot qui signifie dame, reine, mais il peut aussi s'agir d'un nom propre, comme je l'ai fait remarquer dans une note en 1987. Et par la suite, Jean-Marie Durand a proposé d'identifier cette princesse à la reine connue à l'époque de Zimri-Lim sous le nom de Dame Khouratsi. Jack Sasson n'a pas été convaincu, mais ce débat n'a d'importance que pour le début du règne de Zimri-Lim, donc je n'en parle pas davantage. On connaît le détail des négociations qui ont été menées avant la conclusion du mariage, ainsi que le montant du présent Terratum qui a été fait par Samsiadou et son fils au père de la fiancée, selon la coutume de l'époque, et je renvoie pour tout cela aux travaux de Jean-Marie Durand. Nous savons que la Terratum a été apportée à Katna par Sini Dinam, qui était le secrétaire de Yasmaradou, ainsi que par le chef chantre Ibi Ilabrat. Le 14 du 7e mois de l'éponymie d'Ikoupiya, on enregistrait dans le palais de Marie une dépense d'huile expédiée en présent Chubultum à Katna, et on peut penser qu'il s'agissait du départ des envoyés de Yasmaradou. Celui-ci n'a pas fait en personne le voyage jusqu'à Katna. Il s'est rendu simplement jusqu'à Terka, donc légèrement en aval du débouché de la route qui menait de Katna via Palmyre jusqu'à l'Euphrate. On reviendra sur l'itinéraire tout à l'heure. Et c'est là que Yasmaradou a attendu la nouvelle reine au mois 9 de l'éponymie d'Ikoupiya. La question s'est posée de savoir où la princesse de Katna allait être installée à son arrivée à Marie, et ça a été une affaire assez délicate. Yasmaradou a reçu une première lettre de son père à ce sujet, et puis une deuxième lettre encore plus longue et encore plus explicite, que nous allons lire en bonne partie. Donc le père écrivait à Yasmaradou « Tu m'as écrit au sujet de la fille d'Ishriadou, la femme qui t'est arrivée. Il ne faut pas que tu mettes à exécution cette histoire de mise à l'écart, que tu lui fasses l'injure de la mettre au harem, que son père la prenne et que son cœur s'en irrite, elle doit habiter dans ton palais à Marie. Des rations, de quoi soindre et de la nourriture doivent lui être assignées. Il faut qu'on la voie partout et que son père, l'apprenant, s'en réjouisse. Quant à ce qui a déjà été dit, son épouse n'entrera certainement pas au palais de Marie, eh bien, tout ce qui a été dit ne sera qu'écrit. Yardoumlim, par passion pour ses chanteuses, a fait habiter Gabetoum et la Yamhadéenne, ses épouses, en dehors. Alors on dit, son épouse n'habitera pas le palais de Marie. Mais maintenant, en ce qui concerne la fille d'Ishriadou, eh bien, la femme fille de Yardoumlim vaut certainement moins qu'elle. Il faut qu'on lui assigne une résidence à l'intérieur du palais. Ton épouse doit être plus honorée qu'elle. Alors au revers, malheureusement, il y a des lacunes qui empêchent de comprendre complètement la situation. En tout cas, on retire de ces deux lettres des informations essentielles. Premièrement, Yasmaradou avait déjà une épouse avant son mariage avec la princesse de Katna. Ça ne nous étonne pas, puisque nous savons que les rois pouvaient avoir plusieurs épouses. Et Samsiadou interdit à son fils d'agir comme Yardoumlim l'avait fait à l'époque où il occupait le trône de Marie. Il n'est pas question que la princesse de Katna habite à l'extérieur du palais, tandis que Yasmaradou y resterait avec sa première épouse. Et pourtant, on a découvert au chantier A, dans le petit palais oriental, en 1984, un fragment qui ne paye pas de mine, mais qui est très important parce qu'on y voit des dépenses de pain et de farine pour diverses occurrences, dont le repas de la reine Naptan Beltim. Et le lieu et la date de découverte, c'est le 17 du mois 11 de l'éponymie d'Ikoupia. Donc on a bien l'impression que, en effet, tout de suite après l'arrivée de la princesse de Katna, elle a été installée dans le palais oriental, et c'est parce qu'il a appris ça que Samsiadou, furieux, a écrit une nouvelle fois à son fils en lui disant « Mais ça n'est pas possible, il faut qu'elle soit dans le grand palais avec toi. » Finalement, donc, la princesse de Katna a été installée dans le palais, mais manifestement, elle ne s'y est pas sentie à l'aise. C'est ce que montre une lettre d'Utsurawasu, que j'ai publiée il y a bien longtemps, que j'ai déjà citée, mais je ne résiste pas à vous citer à nouveau ce que je considère comme un des joyaux du corpus Mariotte. Donc c'est une lettre qui a été écrite par l'intendant du palais de Marie, Utsurawasu, à Yasmaradou, qui était à ce moment-là en campagne militaire. Autre chose, il n'y a pas dans le palais de vieilles femmes de premier rang qui puissent se tenir au service personnel de la reine, lui disent ou lui fassent dire là où une chose convient. Présentement, s'il y a 4 ou 5 vieilles femmes auprès de Mubalsaga qui connaissent les usages du palais et qui conviennent pour se tenir au service personnel de la reine, que Monseigneur les envoie pour qu'elles se tiennent au service personnel de la reine et qu'en outre, elle lui conseille là où une chose convient et la gouverne. Alors, moi, je ne peux pas lire ça sans repenser à Alice Sapritch dans un film célèbre. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous revoit ça. Une reine ne doit pas faire ceci, une reine ne doit pas faire cela. Voilà, je ferme la parenthèse. Utsurawasu continue d'une façon qui, là, est pour nous beaucoup plus étonnante. La nourrice de la reine qui est venue de Katna. Ça, c'était une coutume à l'époque, quand une princesse était donnée en mariage à un roi étranger, elle venait avec sa nourrice. Eh bien, la nourrice de la reine qui est venue de Katna, vu que depuis que la reine est petite, cette femme l'a éduquée et qu'elle connaît ses habitudes, sans doute aurait-il fallu la mettre à l'écart lors du départ de la reine depuis Katna. Or, on nous l'a envoyée à Marie avec la reine, mais elle ne connaît rien des usages du palais de Marie. À cause de cette femme peu sûre qui se tient au service personnel de ma reine, à l'heure de la sieste, lorsque les verrous du palais sont fermés, elle, c'est-à-dire la reine, lui a fait sortir les chanteuses vers la chapelle d'Ishtar pour une cérémonie Shuraroum, et dans la cour du Bit Birmi, le bâtiment aux peintures, une insolation l'a frappée. Elle est malade depuis ce jour-là. À présent que le cœur de Monseigneur ne s'inquiète nullement, sa maladie a diminué de gravité, je laisserai passer 4 jours après ma présente lettre et j'enverrai à Monseigneur de bonnes nouvelles. Donc vous voyez que Utsura Wasu avait la responsabilité du palais en l'absence du roi, parti pour une campagne militaire, et il voulait absolument dégager sa responsabilité dans la maladie de la jeune reine. Alors, de fait, dans l'été, il est imprudent de rester au soleil à l'heure de la sieste, et le climat de Marie n'est pas le même que celui de Katna. Et ici, on peut prendre en compte la disposition des lieux. Donc, nous savons que le quartier des femmes est situé ici dans le palais, et la cour du bâtiment aux peintures, c'est la grande cour 131, le bâtiment aux peintures, c'est la salle 132, c'est-à-dire la chapelle de la déesse Ishtar, dont on a retrouvé les peintures. Je donne ici la reconstitution traditionnelle. Une reconstitution plus élaborée a été proposée récemment dans le cadre de l'exposition de Marimont. Et donc, l'incident a eu lieu dans cette cour. Les verrous étant mis au palais, les femmes pouvaient avoir accès à cette cour sans risquer d'être vues par des hommes venus de l'extérieur. Vous pouvez être rassurés sur le sort de la jeune et imprudente reine. Une lettre postérieure a bien annoncé à Yasmaradu son rétablissement. Et puis, parmi donc les échanges qui ont existé entre les rois, il n'y avait pas simplement ce que les anthropologues appellent des échanges de femmes. On m'a reproché d'avoir utilisé ce terme dans mon livre sur les relations internationales. Donc, vous voyez que j'ai pris des précautions cette fois-ci, hein, parce que je parlais des échanges de femmes et des échanges de biens, mais c'est ce que font tous les anthropologues, c'est pas du machisme mal placé. Donc, voilà, hein, je fais ma palinodie pour montrer que c'est pas une inadvertance qui m'a fait employer cette expression, c'est un terme technique dans la littérature. Et donc, il y a eu aussi des échanges de biens, des échanges de présents entre les rois avec 2 lettres que je n'ai pas le temps de commenter aujourd'hui, et puis aussi des relations, cette fois purement économiques. On voit notamment que du bois a été coupé dans la région de Nazala et qui a été transporté à Marie, et puis on voit également que lors d'une année de sécheresse, Ishriadou a invité Yasmaradu à faire estiver ses troupeaux dans son royaume. Donc voilà 2 exemples. Et je voudrais terminer aujourd'hui en étudiant la coopération militaire qui a uni le royaume de Katna au royaume de Haute-Mésopotamie, qui a fait l'objet d'un article que j'ai publié il y a une quinzaine d'années, mais les textes sont encore inédits et ça fait partie éléments que nous avons promis dans le cadre de ce projet PCEHM. Il faut que je termine cet ouvrage. Point de départ, l'inscription de Samsiadou que j'ai déjà citée la semaine dernière, et donc qui contient ce passage. À cette époque, j'ai reçu le tribut des rois de Toukrich et du roi du haut pays dans ma ville Achour. J'ai établi mon grand renom et mes stèles au pays du Liban, sur les rives de la Grande Mer. Alors, c'est un passage qui a donné lieu à beaucoup de commentaires. Jean-Robert Cuper y avait vu, je cite, « une de ces expéditions de courte durée, plus économique que militaire, dans la tradition établie par Sargon d'Akkad des années auparavant ». Kirk Grayson avait proposé une explication différente, écrivant « c'est la seule référence à l'Ouest dans les inscriptions de Shamshi-Adad Ier, Samsiadou, et la formulation pourrait être interprétée comme signifiant que le monarque assyrien se contentait de recevoir des cadeaux dans sa capitale et d'envoyer en retour une stèle à ériger ». En fait, c'est un pluriel, il y a des stèles. Compte tenu de la présence d'importants états amorites en Syrie à cette époque, une conquête militaire de cette région par Shamshi-Adad est hors de question. Et puis, on est allé jusqu'à mettre en doute le fait que l'inscription fasse allusion au Liban. C'était le cas en particulier de Manfred Weipert. Eh bien, grâce à ces lettres encore inédites envoyées à Yasmaradu et retrouvées à Marie, on peut démontrer qu'il a bel et bien existé une campagne militaire qui menait les troupes de Samsiadou au Liban, mais il ne s'agissait pas d'une conquête par Samsiadou, c'était l'envoi de troupes pour aider le roi de Katna à réprimer une rébellion dans ces régions. Alors, on commence par étudier la préparation de cette expédition. Il faut répondre à trois questions différentes. Quand la campagne a-t-elle eu lieu? Qui y a participé? Et quel itinéraire a été suivi? Date de l'expédition, nous savons qu'Ishriadou était en mauvais terme avec son voisin du Nord, le roi d'Alep, Soumou Épour, et c'est certainement pour ça qu'il a conclu une alliance avec Samsiadou, qui a été, nous l'avons vu, confortée par un mariage diplomatique. Et dans une lettre adressée à son gendre, ARM 251, Ishriadou s'est plaint que les troupes qu'il avait réclamées depuis longtemps ne lui aient pas encore été envoyées et il demandait à Yasmaradou de venir avec ses troupes et d'emmener sa fille avec lui. Et donc on a vu que le mariage a eu lieu au milieu de l'éponymie d'Ikupia, donc on a ici un terminus pour situer la campagne. Et on peut être encore plus précis parce que dans la lettre ARM 1.69, eh bien, Samsiadou informe Yasmaradou que son frère Ishmedagan a remporté une grande bataille dans la région située à l'est du Tigre contre le pays d'Ahazoum. Et cette victoire, eh bien, nous savons qu'elle a eu lieu à la fin de l'éponymie d'Askoudoum en 1781. Et cette lettre s'achève par ce passage qui est bien connu. Samsiadou écrit à son jeune fils « Quand ton frère ici remporte des batailles, toi tu restes couché parmi tes femmes. Maintenant, quand tu iras à Katna, sois un vrai homme. Comme ton frère s'est fait un nom, fais-toi un nom. » Alors, désolé, c'est du masculinisme de la pire espèce, mais c'est une source historique, hein, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Samsiadou. Et en plus, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donnant le frère aîné en exemple au cadet, c'est exactement ce que les psychologues aujourd'hui recommandent aux parents de ne jamais faire, mais c'est comme ça. Pour nous, ce qui est important, c'est de voir donc que cette campagne de Katna, elle a eu lieu sans doute à partir de l'éponymie d'Askoudoum, mais pas avant. Et apparemment, donc, nous voyons qu'Ishriadou et Samsiadou étaient tous les deux d'accord sur la nécessité que Yasmaradou participe en personne à cette campagne. Et dans la lettre ARM 1.42, Samsiadou décrit la composition de l'armée qui doit se rendre à Katna avec Yasmaradou. Et si on fait le total de tous ces hommes, eh bien, on arrive à pas moins de 21 000 hommes. Donc, c'est une armée absolument considérable. Mais il faut insister là-dessus, ce genre de lettres, ce sont des prévisions, ce sont des ordres. Ça ne décrit pas forcément ce qui s'est passé. Quelle route cette armée devait-elle suivre? Eh bien, il y avait le problème de la traversée du désert, et donc ça posait le problème de l'approvisionnement en eau. Comme nous l'écrit Samsiadou dans une autre lettre, y aura-t-il suffisamment d'eau pour les troupes? Les troupes qui vont se déplacer sont nombreuses. 20 000 personnes vont se déplacer avec des ânes. Y aura-t-il suffisamment d'eau? Si avant de partir, vous n'êtes pas sûr de la quantité d'eau disponible, vous ne devez pas partir. Comme les Ouprapou, c'est une tribu yaminite, ont une bonne expérience de ces routes, envoyez-en quelques-uns afin qu'ils s'informent de la quantité d'eau disponible. Donc on va envoyer des éclaireurs habitués à parcourir cette steppe et qui vont regarder puits après puits si ça suffira pour faire passer autant de monde. Et Samsiadou a également écrit « Moutoubissir connaît ses routes, vous devez lui poser des questions à leur sujet ». Et c'est intéressant parce que le personnage porte un nom qui comprend le nom de la montagne Bissir, qui n'est autre que le Jebel Bishri, voilà une montagne qui a gardé son nom de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et en effet, les routes entre Marie et Terka, eh bien, et entre Marie et Katna, pardon, sont précisément situées au nord ou au sud du Jebel Bishri qu'il faut contourner. Cette région a fait l'objet d'une étude assez approfondie par une expédition japonaise qui a notamment découvert des cairns Ces amoncellements de pierres étaient des repères dans le paysage qui étaient utilisés par les nomades pour trouver leur chemin. Et voici un des puits qui existe encore de nos jours, mais dont on peut penser qu'il existait déjà dans l'Antiquité. C'est à ces puits que Samsiadou faisait allusion. Et puis, dans sa lettre, Samsiadou ajoute qu'il y a trois routes qui sont possibles, une route supérieure, une route moyenne et une route inférieure. Eh bien, Jean-Marie Durand est arrivé à reconstituer ces trois routes. La route supérieure, elle commence à Abattoum, donc entre Meskene et Mar, et la ville actuelle de Raqqa, donc Toutoul étant le site le plus proche. Et donc, on peut supposer qu'il s'agit de la route qui mène à Rasafa. Les vestiges sont bien postérieurs à notre époque, mais il devait déjà exister quelque chose à Rasafa à l'époque. La deuxième route, elle commence plus en aval, à Halabit, l'actuel Halébiyé. On peut voir aujourd'hui une fortification qui remonte à l'époque de Justinien, mais nous savons que le site était occupé déjà au début du deuxième millénaire. C'est un des endroits les plus beaux de la vallée de l'Euphrate. Et puis, il y a une troisième route qui n'est pas précisée, mais donc qui était certainement en aval de Halébiyé. Et si l'on tente de comprendre ces routes en les comparant avec ce qu'on sait pour les périodes postérieures, eh bien, on peut supposer que la route d'Abattoum allait soit via Rasafa, soit autrement directement à Katna, tandis que la route de Halabit et la troisième route devaient sans doute converger au niveau du Kasr al-Khair, passer par Palmyre et ensuite rejoindre Katna. Et donc, voilà les paysages que les troupes de Yasmaradou ont dû rencontrer. Alors, à l'arrivée à Palmyre, évidemment, c'était différent, puisque les tombeaux que vous voyez là sont de l'époque des premiers siècles de notre ère. Mais, par contre, les massifs de la Palmyrène, eux, n'ont pas changé. Peut-être étaient-ils un peu plus verts à l'époque, mais c'est un problème compliqué que la reconstitution des paysages. Enfin, la lettre ARM 1.23 nous donne le nom de certains des commandants militaires de l'expédition et on possède des rapports de Moutoubissir, de Samadahoum et de Soumou Nimrim adressés à Yasmaradou qui décrivent les événements militaires, les événements de cette campagne militaire et donc la conclusion, elle est très claire. Contrairement à ce qui était initialement prévu, Yasmaradou ne s'est pas rendu lui-même à Katna pour aider son beau-père. Et ça, évidemment, c'est une chance formidable pour nous parce que nous avons les lettres qui nous décrivent cette campagne. Si Yasmaradou était parti pour Katna, on ne saurait rien de tout ce que je vais vous dire maintenant. Donc on a une douzaine de lettres, ce qui n'est pas rien, écrites par ces personnages. Alors, les mettre en ordre chronologique, ça n'est pas très facile. Et pour le faire, eh bien, j'ai considéré qu'il y avait une logique géographique. Et on voit d'abord que le début de la campagne ne s'est pas fait sans difficulté. Au départ, en effet, les troupes avaient été envoyées pour aider Ishriadou dans son conflit avec Souempour, le roi d'Alep. Mais on ne pouvait pas commencer une campagne militaire sans consulter les dieux. Et les troupes envoyées par Samsiadou étaient accompagnées par un devin nommé Zunan. Et dans un rapport adressé à Yasmaradou, on peut lire ceci. Ishriadou, donc le roi de Katna, a dit à Zunan, « Toi, depuis, puis là il y a un chiffre cassé, deux ou cinq, on ne sait pas, depuis deux ou cinq mois, mes troupes sont empêchées de combattre. Par le dieu de mon père, mon cœur a conçu un soupçon. Se pourrait-il que mon frère, c'est-à-dire Samsiadou, vous ait donné pour instruction de ne pas combattre les troupes de Soumou-Épour ? Autrement dit, on a là ici quelque chose de tout à fait extraordinaire, la seule fois, à ma connaissance, où quelqu'un remette en question l'honnêteté d'un devin. Ça n'est pas la technique de la divination en soi qui est remise en cause, mais c'est le fait que le devin puisse manipuler les réponses qu'il obtenait. Et donc l'idée, c'est Samsiadou aurait envoyé des troupes, mais il aurait chargé le devin d'empêcher que ses troupes combattent. C'est en tout cas ce que Ishriadou s'imagine. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que l'expédition a pris une direction très différente de ce qui était prévu. Combattre les troupes de Mouépour, on s'attend à ce que l'expédition parte vers le nord, or, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Une des premières lettres, et l'une des plus intéressantes, donc M5423, eh bien, dans cette lettre, on nous dit que le roi de Katna prend du sésame et de la nourriture dans les greniers d'une ville qui s'appelle Dourishriadou, a priori c'est une ville frontière, qu'il les donne aux troupes de Marie, et la lettre dit ceci, je cite, « Après avoir fourni du sésame et de la nourriture aux troupes, à notre tête, Ishriadou nous a conduits au bord de la mer, mais il n'y avait ni butin ni nourriture, et les troupes ont commencé à avoir faim. Après cela, il nous a fait voyager entre l'Anti-Liban et le Liban, et nous avons assiégé la ville de Tseroum. Nous avons combattu pendant 2 jours, puis la ville s'est rendue et il a expulsé la garnison et des otages. Du Liban à l'Anti-Liban, de manière inattendue, 4000 hommes ont traversé en force devant nous et ils ont rançonné la ville de Tsibat. À l'intérieur de cette ville, 100 hommes, et puis malheureusement, la faim est cassée. » Alors, si on veut comprendre cet itinéraire, il faut d'abord s'interroger sur ce que signifie l'expression « ina let temtim ». Donc, mot à mot, c'est au bord de la mer, et donc on pense immédiatement à la mer Méditerranée. Mais à ce moment-là, ce serait un peu étrange, parce qu'on va voir que par la suite, la campagne, on vient de voir dans la citation qu'on va entre le Liban et l'Anti-Liban. Donc ça voudrait dire que de Katna, on est allé par la trouée de Homs jusqu'à la Méditerranée, qu'on est revenu et ensuite qu'on est descendu. La lettre n'a pas l'air du tout de parler de cela. Mais dans d'autres textes de Marie, le mot Temtum est utilisé pour désigner non pas la mer, mais un lac. Et donc, évidemment, ici, on pense au lac de Homs. Et là, chance, nous savons que le lac de Homs existait déjà au deuxième millénaire avant notre ère. Donc, manifestement, c'est de cela qu'il est question. Et on voit ensuite que Ishriadou se trouve à Kadesh. Un texte dit « Ishriadou nous a confié la mission suivante à Kadesh ». Et Kadesh, c'est Tel Nebimend, au sud de Katna, donc en amont sur l'Oronte. Et donc on voit que, effectivement, Ishriadou n'utilise pas les troupes que Samsiadou lui avait envoyées pour combattre Soumouépour dans le nord, mais pour mener une expédition dans la direction absolument opposée. Et le texte que j'ai cité la semaine dernière explique pourquoi, vous vous rappelez ce document, n'est-ce pas, Soumouépour a écrit aux sires de Byblos et aux sires de Hatsor et les a fait se tenir avec leur armée au complet. Ils doivent mettre partout le feu aux habitations du pays de Katna et s'approcher de la grande porte de Katna. Autrement dit, Soumouépour a tenté de faire prendre le roi de Katna à revers. Et donc, il fallait remonter le cours de l'Oronte à partir de Kadesh. L'étape suivante a été une ville qui s'appelle Tseroum, mais qui semble par ailleurs inconnue. Après 2 jours de lutte, la ville demande la paix. Et c'est lorsque les troupes se trouvaient dans l'Anti-Liban que Samadaroum envoie un nouveau rapport à Yasmaradou, qui est tout à fait intéressant. « Dis à mon seigneur, ainsi parle Samadaroum, ton serviteur, alors que nous étions dans l'Anti-Liban, Khayamkou, un homme de Bidar, messager de Monseigneur, a remis à Ishriadou les tablettes que Monseigneur nous avait envoyées. Lorsque nous sommes revenus de notre expédition, Ishriadou nous a dit « Le messager a commis une erreur et m'a remis les tablettes qui vous étaient destinées. » J'ai répondu « les nouvelles envoyées par notre Seigneur ne posent aucun problème. » Et là, il cite les nouvelles qu'il reçoit d'habitude. « Protégez les troupes, agissez toujours en accord avec votre Seigneur Ishriadou, soyez ses oreilles là où il veut que vous alliez. » C'est ce qu'il nous écrit. Je lui ai répondu selon les termes de la tablette de Monseigneur que j'avais entendue. Et s'il a ouvert les tablettes, c'est parce que le messager lui a dit « Elles vous sont destinées. » Donc, il y a eu une erreur du messager porteur des tablettes. L'incident révèle une certaine tension entre les généraux de Yasmaradou et le roi de Katna, mais les deux parties, manifestement, souhaitent minimiser l'importance de l'épisode. Quelques jours plus tard a eu lieu la conquête de Tsibat, qui est déjà mentionné dans une lettre publiée comme ARM 2, 13. Le général s'excusait de ne pas avoir envoyé d'esclaves à Yasmaradou comme sa part du butin de cette ville. Et la lettre explique pourquoi. Yasmaradou est à ce moment-là en route vers Kabra. Et cette excuse est donc très intéressante, je l'ai déjà dit pour des raisons chronologiques, et aussi parce que donc elle explique pourquoi Yasmaradou ne s'est pas rendu lui-même à Katna. La ville de Tsibat, dont Samidaroum mentionne la conquête, doit être identifiée à la Tsupité néo-assyrienne, et j'ai proposé que ce soit la même ville que la Tsoba de la Genèse. La localisation n'est pas tout à fait certaine, mais j'ai proposé qu'il puisse s'agir du nom antique de Baalbek, quelque part sous les ruines impressionnantes de la période romaine. Eh bien, il doit y avoir des vestiges du deuxième millénaire et qui sait, quelques textes cunéiformes qui pourraient confirmer cette identification. Après la conquête de Tsibat, le sac d'une ville nommée Razahum est décrit, et on n'a pas de détails sur le butin qui a été fait lors de cette campagne, mais on peut imaginer que des cèdres ont été coupés et qu'on les ait envoyés en direction du Moyen-Euphrate, et cela pourrait expliquer ce qu'on trouve dans l'inscription du temple d'Achour que nous avons déjà vu. J'ai couvert le temple de cèdres, j'ai érigé dans les pièces des portes en cèdre décorées d'étoiles d'argent et d'or. La dernière partie de la campagne s'est déroulée au pays d'Apoum. Alors, grâce aux lettres découvertes en Égypte à El Amarna, on sait que le pays d'Apoum correspond à la région de l'actuel Damas, et Apoum signifiant la Canée, ça correspond très bien à l'état prémoderne de la Ghouta dans les environs de Damas, irrigué par le fleuve Barada. Vous savez que, par ailleurs, Apoum était le nom de la région autour de Shubat Enlil, et c'est un exemple du phénomène que j'ai appelé toponymie en miroir, mais il est certain que ici c'est le pays d'Apoum autour de Damas dont il est question. Et donc, on a des indications dans les lettres de Moutbissir, qui explique que l'expédition séjourne dans la ville de Doubba, en face de la ville de Raritsoum, où sont installés des mercenaires et des habitants de Canaan. C'est la première mention de Canaan dans des textes. Et on ne sait pas exactement où est cette ville de Raritsoum, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait bel et bien dans la Damascène une occupation à l'âge du bronze moyen qui était important, et Ahmed Taraghji a découvert un palais qui comportait des fresques murales absolument extraordinaires. Malheureusement, il paraît que le site a été complètement détruit lors des événements de ces dernières années. Et dans une autre lettre, Samadaroum raconte également ce qui s'est passé lors du siège d'une autre ville. Finalement, les soldats n'en pouvaient plus de cette campagne. On n'en connaît pas la durée, mais on voit que ça a dû être long. Et on voit que les généraux citent une lettre de Yasmaradou. Ishriadou ne doit pas écouter cette tablette que je t'ai envoyée à son insu. Il ne doit pas écouter les plans secrets de ton seigneur. Et ces plans, c'était les plans de retour. Alors si on tente un bilan, rapidement, on voit d'abord la série extraordinaire de hasards qui se sont produits et qui expliquent pourquoi nous avons autant de documentation sur cette campagne militaire. Premier hasard, le fait que Yasmaradou finalement n'ait pas pris part à cette campagne militaire et donc que les généraux aient dû le tenir au courant. Deuxièmement, le fait que Zimri-Lim, pour une raison que nous ignorons, n'a pas détruit la correspondance de l'époque de Yasmaradou lorsqu'il s'est installé à Marie en 1775. Et troisièmement, le fait que ces archives n'ont pas été détruites lorsque les Babyloniens ont conquis Marie, mais qu'elles aient été ensevelies sous les ruines du palais. Et l'intérêt de ces lettres, eh bien, c'est de montrer, une fois de plus, que les inscriptions royales doivent être prises au sérieux. Contrairement à l'opinion développée par Stefano Seminara à la suite de Mario Livirani, nous pouvons étudier les inscriptions royales pas seulement comme un genre littéraire, mais aussi prendre en compte leur contenu. Il faut résister à la tentation de l'hypercritique. Les inscriptions royales ne mentent pas. Elles ne disent pas toute la vérité, mais elles ne disent que la vérité. Donc il y a des distorsions. Samsiadou ne s'est pas rendu personnellement au Liban et sur les côtes méditerranéennes, mais ça, c'est une constante de la rhétorique royale. Hein. César, pontem fecit. Mais il a bien fait installer des stèles, on ne les a pas encore retrouvées, mais je ne doute pas que ces stèles aient existé, et donc Weipert avait eu tort de douter que Mat Laban désigne les montagnes du Liban. Et je dirais pour terminer qu'il faut souligner l'extraordinaire ampleur de la politique de Samsiadou. Il séjournait dans la région du Zagros après la conquête de Kabra, mais ses troupes combattaient en même temps à l'autre bout du Proche-Orient, entre le Liban et l'Anti-Liban. On a affaire à une véritable politique mondiale qui allait depuis l'Iran à l'est jusqu'au Liban à l'ouest. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, le lundi 5 janvier 2026.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.